C'est reparti pour un tour.
Arthur, on est bon?
Captain Vante speaking, we are okay.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
Le lundi et le mercredi à partir de 8h30.
Beaucoup de local et un peu d'autres choses.
Sonotone.
Ok.
Lunettes.
Ok. Question édito.
Ok.
Et parfois les redis.
Génial.
Décollage immédiat pour les matinales de Bartas.
Sur le 107 FM.
La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, nous sommes le mercredi 10 mai, il est 8h30 au programme de cette matinale, nous sommes en plateau avec Marie-Hélène, bonjour.
Et bonjour.
Et Pierre, bonjour.
Et bonjour Bartas, bonjour Ben.
Nous serons dans un instant avec Anna par téléphone du réseau écologie sociale, les communalismes. Pourquoi ? Parce que ce week-end à Florac se passent les rencontres communalistes. Agir ici et maintenant, on en parle avec vous dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, Léo, notre service civique, a eu l'occasion d'aller à la rencontre de trois étudiantes de Agro Paris Tech de Nancy. Elles sont venues en Lozère pour effectuer une étude des pratiques sylvicoles et des milieux aquatiques du territoire. Tout un programme. Ça va envoyer du lourd dans cette matinale. On écoutera ce reportage en deuxième partie. Exceptionnellement aujourd'hui, pas d'édito, le temps d'appeler Anna. On écoute d'abord Simple Mind, Don't You. Malheureusement, auditeurs, auditrices, on a eu un petit problème de téléphone et nous n'avons pas pu avoir Anna du réseau écologie sociale et communalisme. C'est dommage, ça aurait été passionnant. Reprenons donc l'interview avec Marie-Hélène et Pierre. Déjà, peut-être commençons par dire un mot sur ces rencontres. Ce sont les quatrièmes rencontres donc qui vont se passer ici, les rencontres communalistes, si je ne m'abuse. Comment ça se fait qu'elles se retrouvent à Florac, ces rencontres ?
Alors en fait, c'est un réseau plus que national, plutôt international, enfin européen, on va dire, qui s'appelle le réseau écologie sociale et communaliste, qui est un réseau relativement neuf, a eu plusieurs petits démarrages déjà dans les années en 2017, et puis avec les années Covid, ça s'était un petit peu arrêté, et qui a repris un petit peu ses activités depuis à l'automne 2021, où on s'est dit que quand même il fallait reprendre ça. Et en fait, moi, je fais partie de ce réseau par intérêt, par questionnement par rapport à ces questions communalistes. Et donc, je suis allée aux trois premières rencontres. Les premières étaient à l'automne 2021 dans la Drôme. Les secondes, l'année dernière, au printemps, à Saint-Hippolyte-du-Fort. À l'automne, on s'est retrouvés en Ariège. Et donc, en Ariège, j'ai dit, pourquoi pas au printemps à Florac, tout simplement, voilà. Avec l'idée que de faire pour la première fois des rencontres au sein d'un village, puisque chaque fois c'était plutôt des rencontres, on va dire, un petit peu fermées sur un réseau, dans un lieu un peu clos. Alors là, je me suis dit, il faut faire des rencontres au sein du village de Florac, pour voir qu'en disent les gens, ouvertes au grand public. Voilà, c'est un petit peu la grosse différence par rapport aux premières rencontres du réseau.
C'est quoi le communalisme, finalement ? Commençons par là.
Alors d'abord, il faudrait peut-être parler, parce qu'en ce qui nous concerne, on parle de écologie sociale et communalisme. Le communalisme, c'est une proposition politique, en gros, qui propose de repartir de forme de démocratie directe à partir d'assemblées locales. Voilà, pour le dire en deux mots, ça c'est la proposition politique et le réseau écologie sociale et communalisme pense que le meilleur moyen de porter aujourd'hui la nécessité de penser l'écologie et de penser le social en même temps ne peut passer que par la démocratie directe et ne passera pas par un système représentatif ou étatique ou centralisé. Donc en fait, pour nous, le communalisme, c'est l'outil politique, l'organisation politique qui peut porter l'écologie sociale.
Voilà. Alors dans un système politique qui galère quand même avec la démocratie, je pense qu'on a eu 2-3 exemples assez probants il y a quelques temps, même si évidemment tout le monde n'est pas d'accord, est-ce que le communalisme est une solution puisqu'il s'agit de faire appliquer une démocratie directe, ou est-ce que finalement il doit être un des rouages de la société avec d'autres systèmes, je pense aux municipalités, par exemple.
En fait, j'aime pas trop parler de solutions. Je pense qu'il y a beaucoup de questions et que le principal, c'est de se poser les questions et également de faire des expériences. Et du coup, en fait, il faut expérimenter, il faut se servir de ce qui existe un peu partout parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui peuvent se rapprocher des systèmes communalistes. Et la question, c'est de les observer, de les expérimenter et, voilà, et de continuer dans ce sens. C'est pas, enfin, moi, je n'imagine pas trop une solution globale, voilà, parce que c'est... mais après, est-ce qu'il peut y avoir d'autres systèmes politiques à côté du communalisme? C'est ça dont tu parlais. Je pense, alors, quand tu parles de municipalité, municipalisme et communalisme, c'est assez proche. Hein, voilà, on peut utiliser les deux termes. On parle aussi de municipalisme libertaire. Bon, ça a pris plusieurs types de termes, mais peu importe. Ce que je pense, c'est que dans un système de démocratie directe, cela n'empêche pas la délégation. Je préfère parler de délégation plutôt que de représentation, mais ça n'empêche pas la délégation, bien sûr, qui est nécessaire. Ça n'empêche pas que les assemblées locales, donc les communautés de base, on va dire, s'assemblent. Et d'ailleurs, le communalisme va de pair avec ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique, qui est une façon de confédérer des communes, on les appelle comme ça, ensemble. Donc, en fait, c'est pas du tout un système refermé sur lui-même ou un système qui viserait à une espèce d'autonomie enfermante. Pas du tout.
Oui. L'idée de ces rencontres, en fait, c'est de montrer aussi que le communalisme fonctionne dans quelques régions du monde. On va en parler juste après. C'est vraiment montrer concrètement que ça peut fonctionner.
Oui, montrer que ça peut fonctionner et montrer surtout que chaque fois, ce sont des conditions historiques spécifiques qui peuvent permettre de mettre en place des choses et que ces choses-là sont bien sûr impossible à faire du copier-coller, et surtout c'est regarder ce qui marche, mais aussi regarder ce qui marche moins bien. C'est pas le regarder de façon un peu romantique, mais plutôt claire, en regardant les bons et les mauvais côtés. Et là, on va avoir deux types d'expériences. Vendredi soir, Pierre va en parler plus longuement. On va parler de différentes expériences au Mexique. On connaît bien le Chiapas, bien sûr, mais il y a également d'autres communautés au Mexique qui travaillent sur ces questions-là. Et puis, samedi soir, on aura la chance d'avoir Somaye Rostampour, qui est une Turque, qui a travaillé sur ce qui se passe au Kurdistan syrien, au Rojava, où là, il y a une expérience assez intéressante de mise en place d'un système communaliste. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle va en parler sous un angle particulier, puisqu'elle va parler de la place des femmes dans cette révolution-là, ce qui est particulièrement intéressant, moi, je trouvais, voilà. Du coup, oui, on va avoir ces deux types d'expériences, parce que ça nous permettait aussi de prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on peut faire ici, et d'avoir... d'avoir des exemples que bien sûr on ne peut pas prendre tel quel et copier tel quel, ça n'aurait pas de sens, mais dont on peut s'inspirer. Voilà. Et puis par contre, vas-y, pardon, excuse-moi.
Non, mais je t'en prie, j'allais juste corroborer ce que tu disais en disant que c'était à 18h l'expérience du Rojava à l'épreuve du féminisme écologique et communal.
Voilà, moi j'avais envie de rajouter un truc quand
avec
même.
Avec plaisir, Pierre.
Il faut quand même savoir, pour ceux qui ignoreraient tout du Rojava, que c'est quand même le seul état féministe revendiqué comme tel au monde, et rien que pour ça, ça mérite de venir voir ce qui s'y passe de près, puisque on le sait, les médias boycottent pas mal le thème et qu'on n'en entend jamais parler, même en pleine période de tremblement de terre, par exemple.
Ouais, c'est vrai que c'est fou. Justement, Pierre, puisque tu as la parole, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la communauté magoniste du Mazatlán?
Oui, donc moi je ferai un retour sur une expérience à Mazatlán, Villa de Flores, qui est une communauté. Donc quand on dit communauté, on parle en général d'un village, d'un gros village. Donc quand on dit gros village, Mazatlán, c'est un municipio de 15 000 habitants, donc c'est pas non plus petit. Mmh. Ça se passe donc, c'est situé dans la Sierra Mazateca. La Sierra Mazateca, c'est une montagne au sud-est de l'état de Oaxaca. Oaxaca étant le deuxième état quand on part de la frontière du Guatemala et qu'on remonte sur la côte pacifique, donc juste au-dessus du Chiapas. Oaxaca est comme le Chiapas en état très indien, avec de très nombreuses minorités et tout autant d'organisations politiques et syndicales, donc liées à la défense des droits des Indiens, qui, comme on le sait, sont pas mal bafoués depuis plus de 500 ans. Et donc la Sierra Mazateca connaît donc deux communautés magonistes. Magonistes, c'est quoi? C'est là où est né l'anarchiste mexicain Ricardo Flores Magón, mort en prison aux États-Unis au début du XXe siècle, qui est donc quelqu'un qui a pas mal écrit. Et donc c'est pas des gens qui sont très dogmatiques, c'est juste des communautés indiennes qui ont un peu récupéré l'image de Magón, mais en réalité qui font depuis toujours l'expérience de la démocratie directe. Alors depuis toujours pas forcément, puisque à l'époque où moi j'y était effectivement, le projet municipal était vraiment très intéressant, donc très participatif. Donc là, ça consistera à expliquer justement les différences avec chez nous, par exemple, les mandats politiques, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils reçoivent, qu'est-ce qu'ils gèrent. Donc ils avaient un système de police, ils avaient un système de justice autonome. Ils étaient autonomes à presque 95%, puisqu'en plus ils ne recevaient plus à l'époque de subventions de l'État. Aujourd'hui, malheureusement, comme dans beaucoup d'endroits, la situation a bien changé. Donc on verra exactement comment ça se passe. Ils viennent de se prendre un ouragan il y a 15 jours là, qui a détruit justement le peu qui avait été construit par les différentes mandatures. Donc voilà, en gros, pour Mazatlán, qui est vraiment une expérience très intéressante, dont on peut s'inspirer à plein de titres.
Ça sera vendredi soir. Et il y aura aussi... alors, comment ça va s'articuler un peu cette soirée?
Alors, il y a quatre parties, si tu veux. Ça dure environ 2 heures. Il y a 4 parties distinctes. Mm-hmm. Donc, il y a 2 interventions de Stéphane Couturier, donc, qui, lui, travaille à la UNAM, qui est l'Université de Mexico, donc, qui est spécialiste de géographie tropicale, qui va revenir sur 2 expériences, en fait. D'une part, sur le Chiapas, à l'époque où il y était, sur la mise en place de la formation pour les promoteurs de santé animale. Donc on sait que, alors même si on n'en parle plus beaucoup actuellement, que le projet autonome au Chiapas continue bon gré mal gré à suivre son chemin et ça marche quoi. Enfin il se passe des choses, même si c'est pas médiatisé, même si les Français sont toujours un petit peu sceptiques et tout ça. Et, donc lui il nous parlera sur le caracol de la Realidad, qui était le centre vraiment de la rébellion zapatiste en 1994 et qui est toujours un des endroits les plus importants au Chiapas. Donc dans un endroit où il est allé justement pour faire ses formations des promoteurs et comment ça se passe, la mise en place concrètement. Mmh. Après il interviendra aussi sur une expérience beaucoup plus contemporaine. Là on est dans le nord du Mexique, dans l'état du Michoacán, sur justement la gestion communautaire des forêts, un sujet qui ne manquera pas d'intéresser beaucoup de monde ici en Lozère.
Tu m'étonnes. C'est dommage, c'est la fête de la forêt aussi vendredi soir.
Eh bien, on va les inviter. Hein.
Voilà, 2 visions de la forêt.
Voilà, 2 visions de la forêt peut-être.
Ouais, ça c'est clair. Est-ce que c'est le voyage donc, toi, qui t'a fait t'intéresser au communalisme?
Le voyage qui m'a fait m'intéresser au communalisme, disons que c'est le voyage, c'est l'utopie en fait du Chiapas à l'époque qui m'a amené à aller au Chiapas, puisque dans les années 90-2000 il y avait beaucoup de collectifs de soutien en France très actifs. On sait de toute façon jusqu'en 2000 le mouvement altermondialiste était très très dynamique et ça a été un petit peu impacté par les attentats du 11 septembre et tout ça, mais c'est ça à la base qui m'a emmener là-bas. Et après le voyage en soi, là-bas il y a tellement d'expériences, qu'on rencontre tellement de choses dingues en termes de enfin pour nous c'est du militantisme, pour eux c'est un mode de vie, c'est naturel, c'est pas c'est toute la différence avec nous quoi.
Les soirées se passeront à l'Encrier et elle se terminera vendredi par la projection du film Quand la justice se fait peuple.
C'est ça. Alors ça se terminera pas, ce sera au milieu à peu près. C'est un film sur les polices communautaires au Guerrero, donc parmi les la myriade d'initiatives qu'on peut trouver, il y a cette idée que la police c'est pas un truc qui est exogène, au contraire nous on peut le prendre en charge et on peut faire une police qui soit différente, qui soit citoyenne mais qui soit surtout humaine.
J'aurais vraiment aimé avoir Anna au téléphone parce que j'ai commencé à lire pas mal de choses sur le réseau écologie sociale et communalisme. Les combats sont très nombreux quand même, hein. Entre ZAD, féminisme, etc. Ils sont vraiment sur tous les fronts.
C'est surtout que c'est pas séparé de tout ça. En fait, le communalisme, c'est une proposition politique, j'aime bien l'appeler comme ça, moi, que l'on peut, comment dire, qui doit pouvoir porter justement toutes ces alternatives, toutes ces expériences très très diverses qui se passent un petit peu partout. Et du coup, en fait, ça ne serait pas de sens que le communalisme soit séparé de tout ça. C'est lié à ce qu'on vit aujourd'hui. Hein, voilà.
C'est un tout, c'est sûr. Le samedi, c'est direction le foyer rural pour une série, comment on appelle ça, d'ateliers. Hein.
D'ateliers, c'est ça. Après, bon, donc, en dehors de ces deux soirées donc, qu'on a appelées Regard international sur le communalisme, donc vendredi et samedi, on a voulu plutôt construire ces rencontres sous forme d'ateliers, sous forme d'échanges, beaucoup d'échanges et de partage d'expériences. En fait, les deux journées sont divisées donc en quatre demi-journées, forcément, quatre ateliers. Quand même, le samedi matin, on va prendre un moment, une heure à peu près, pour présenter, en pas trop longtemps, parce qu'on ne voulait pas faire des conférences trop longues, etc., le communalisme. Ses origines historiques, le lien, parce que ça me semble très important, entre écologie sociale et communalisme, comment ça s'articule, et puis donc dire un mot également du réseau. Donc ça, ce sera la première partie samedi matin. Donc c'est vrai qu'on vous engage à y venir, parce que ça vous permettra peut-être de mieux rentrer ensuite dans les ateliers. Le premier atelier qui est animé par Stéphanie Rieu et puis Sophie Giraud, je les remercie beaucoup parce qu'elles ont fait beaucoup de travail d'animation pour ces rencontres. Et puis on a voulu articuler ces rencontres autour d'un pilier. En fait, le communalisme a plusieurs piliers, et un des piliers, c'est l'éducation populaire. Il ne peut pas y avoir de communalisme sans éducation populaire, parce que le communalisme nécessite la participation de tous, et que ça nécessite des prises en, voilà, des connaissances, des prises en charge, des prises de conscience, etc. Et que ça, c'est l'éducation populaire qui peut le faire. C'est pour ça que le samedi matin, on va articuler ça. Voilà. Comment on fait, comment on se connaît, pourquoi on est là, qu'est-ce que ça nous dit le communalisme, et même, il y aura, je peux faire un petit scoop, il y aura une petite enquête dans Florac. Classe. Donc les gens de Florac vont aller être enquêtés sur ce qui se passe, pourquoi, qu'est-ce que c'est que le communalisme, qu'est-ce que ça vous dit, voilà. Bon, voilà, c'est cette petite scoop, parce que normalement il ne fallait pas le dire.
Ah ben voilà.
C'est pas grave, comme ça les gens vont commencer à s'attendre à quelque chose. Voilà, et puis ensuite, donc l'après-midi, on va parler du deuxième pilier du communalisme, qui est l'autonomie. Pierre en a parlé pour ces fameuses communautés. La question de l'autonomie, c'est plutôt la question de comment des assemblées locales se construisent leurs propres lois, leur propre fonctionnement, et prennent en main ce qui les concerne, en fait. Donc là, ça va être plutôt sous forme d'échange aussi, de partage d'expériences. Et le dimanche, les deux autres, je dirais, piliers du communalisme, la question des communs, du commun, communalisme, voilà, des communs, se réapproprier les communs. Pareil, là, on va partir d'expériences alors assez locales, puisqu'on va, il va y avoir des personnes qui vont venir parler de leur expérience de la logeuse à Saint-Martin-de-Lanzusque, également le fournil de Vébron, qui sont des expériences de construction collective. Voilà, mais ça se fera également vraiment en échange avec tout le monde. Et puis, le dernier atelier, dernier pilier du communalisme, les assemblées populaires, bien entendu. Alors, comment bâtir des assemblées populaires? Et là, pareil, on va partir d'expériences, par exemple, comme le collectif citoyen de Florac, ou l'assemblée des habitants de Florac, des espèces de petites expériences qu'il y a eu ici, et on va demander aux personnes des autres qui viennent d'ailleurs, etc., si elles ont des expériences de ce genre, qu'on puisse partager, échanger sur ces choses-là qui sont difficiles à construire dans nos sociétés, mais qui sont nécessaires, donc sur lesquelles il faut vraiment insister, quoi.
C'est ça, en fait, on se rend pas vraiment compte que le collectif citoyen, c'est une forme de communalisme, en fait.
Enfin, c'est une forme, c'est plutôt un... comment on pourrait dire, un des éléments qu'il nous faudrait outils. Mettre en place pour mettre en place le communalisme. Et bien sûr, il faut partir d'assemblées, il faut partir de collectifs citoyens, il faut partir de la participation de tous, mais ça suffit pas pour bâtir le communalisme, mais c'est peut-être une première pierre, oui, en effet.
Et puis forcément, ça se clôturera au foyer rural, ou alors c'est direction l'Encrier?
Non, ça se termine au foyer rural, la clôture se fait au foyer rural. L'idée de cette clôture, c'est justement de tirer quand même les fils rouges de ces journées, et d'essayer de repartir avec des pistes d'action concrètes, ouais. Chacun chez nous, puisqu'il y aura donc, comme il faut le dire, il y a une trentaine de personnes qui viennent d'un petit peu partout en France et en Espagne aussi, des Espagnols qui viennent. Voilà. Ce que je voulais rajouter, c'est... on n'a pas parlé du Rojava. Tu veux en parler un mot?
Oui, donc samedi, la soirée sera consacrée au Rojava. Donc cet État autonome kurde qui se trouve entre la Turquie et la Syrie, qui a été rendu célèbre un bref moment quand justement de nombreuses femmes ont pris les armes pour repousser Daesh. Cette expérience n'est pas morte, malgré le fait que ce territoire subisse quotidiennement les agressions de l'État turc, notamment à coups de drones. Donc la Turquie qui récupère progressivement du territoire, qui arrête des gens, qui torture des femmes, des militantes, des profs, enfin plein de gens. Mmh. Mais il y a toujours un État indépendant qui lui a mis en place des initiatives donc basées toujours sur ces fameuses assemblées populaires et où les femmes ont un rôle moteur. Donc ce sera vraiment intéressant là-dessus d'écouter la conférence de Somaillé. Après on aura un film, justement un très beau film, Gulistan Terre de Rose, qui raconte un peu l'engagement de ces femmes contre Daesh, un film absolument bouleversant et que je vous invite à venir découvrir.
Ça sera à 21h. Oui, Marie-Hélène ?
C'est juste pour vous dire qu'en fait, il y a plein de moments très très importants dans ces rencontres. Bien sûr, on comprend que vous puissiez venir uniquement à certains moments, mais voilà, je serais trop vous recommander les deux soirées, bien sûr. Mais également les ateliers, parce que ça va être vraiment les soirées vont nous porter sur les ateliers aussi pour construire ici, parce que c'est quand même le sous-titre, c'est bien agir ici et maintenant, et ça on y tient. Le communalisme, c'est pas une sorte de lendemain qui chante, c'est tout de suite là à mettre en place maintenant. Je voulais rajouter juste, peut-être avant que j'oublie, que bien sûr c'est ouvert au grand public, que vous pouvez venir, qu'il n'y a pas d'obligation de réservation. Donc je rappelle, les deux soirées Regard International, ce sera à l'Encrier, les ateliers, c'est au foyer rural. Il y a également possibilité de repas. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont réservé. Ceux qui n'ont pas réservé, ce sera dans la limite des repas que nous avons commandés. Du coup, les repas se passeront au Florus. Donc n'hésitez pas, parce que c'est aussi dans ces moments un petit peu informels, de repas, etc., que des choses peuvent se passer. Il y aura une buvette, on pourra même boire de la bière et tout ça. Et alors, vas-y.
Alors, pour réserver votre repas, justement...
Il n'y a pas besoin de repas. Il n'y a plus de réservation, parce que maintenant, j'ai été obligée de fermer les réserves. Voilà. Donc, j'ai réservé beaucoup plus de repas que ceux qui sont réservés. Mais bien sûr, les casseroles ont tout un fond.
On partagera.
Donc on partagera, on verra. Je voudrais préciser que donc il y aura une buvette et qu'il y aura également des pâtisseries. Pour manger un petit bout pendant là. Et puis toute la buvette et tout ça va nous permettre également de rentrer un petit peu de sous. Le réseau n'a strictement aucun sou. Mais il va nous falloir au moins payer, ce qui est logique quand même, le déplacement de Somaillé qui vient de Paris, qui vraiment a mis beaucoup de bonne volonté et qui nous envoie toujours des mails extrêmes. Elle est très très contente de venir. Du coup, il va falloir vraiment l'accueillir très bien. Et voilà. Et donc, on compte sur vous tous, Flora, quoi, pour venir, même si ce n'est que par curiosité. Voilà, on aime bien les curieux en fait.
Ouais, c'est sûr, les repas seront assurés par l'association paysanne et par l'Embuscaf.
C'est ça.
Donc on sait que ça va être du bon, quoi qu'il arrive.
Voilà, il y a également la possibilité de manger vendredi soir, juste avant la soirée sur le Mexique, à l'Encrier. Ce sera préparé par l'équipe de l'Encrier.
L'accueil se fait à partir de 18h ce vendredi et ça dure jusque dimanche. Les journées de samedi et dimanche, ce sera au foyer rural. On peut retrouver le programme à l'Encrier un peu partout dans la ville.
À Biojour, à Nouvelle Dimension, à l'Embuscaf et puis certainement à d'autres endroits.
Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à toi. Merci
et Marie-Hélène, je te souhaite vraiment un bon vent.
Merci beaucoup.
Merci pour tout ce que tu as fait à la radio.
Merci à Bartas, merci à Florac.
Et tu reviens quand tu veux, évidemment, à ce micro. À très bien.
Au revoir.
Dans un instant, Léo est parti en reportage. On va l'écouter. On écoute d'abord. Tiens, je me suis fait plaisir ce matin. Je sais pas pourquoi. J'ai mis Scorpions. Parce qu'un vent qui change là. Et évidemment, je m'excuse auprès d'Anna. Ça aurait été vraiment passionnant, mais justement, elle sera là ce week-end, alors n'hésitez pas à aller à leur rencontre. Merci beaucoup à tous les deux, ciao.
Listening to the wind of change.
Changement, et oui, c'était Scorpions, Wind of Change. Léo a eu l'occasion d'aller à la rencontre de trois étudiantes de AgroParisTech de Nancy. Elles sont venues en Lozère pour effectuer une étude des pratiques sylvicoles et des milieux aquatiques du territoire. Et bien, il est allé à leur rencontre et on écoute ce qu'il en a fait.
Bonjour, je m'appelle Elda Perronnet et je fais la formation des ingénieurs forestiers à Nancy. Et donc actuellement, on est en Lozère pour réaliser un projet sur l'eau en lien avec la gestion du peuplement forestier.
Voilà, moi c'est Elisa Dridi. Pareil, je suis aussi la formation des ingénieurs forestiers à Nancy. Et moi je suis plus particulièrement le parcours de gestion des milieux ouverts et boisés.
Et donc moi c'est Agnès Davière. Et comme Elda et Elisa, je suis la formation des ingénieurs forestiers à Nancy.
Vous êtes tous de la même année, de la même promotion ?
Oui, on est de la même promotion et du coup on est donc en deuxième année d'école d'ingénieur, donc c'est un bac plus 4.
Aujourd'hui vous êtes en Lozère depuis 2 semaines pour faire une étude de terrain du coup en lien avec l'eau et la forêt. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que vous êtes retrouvé ici ?
Alors du coup dans le projet, dans le contexte de nos études, on a effectué un projet d'à peu près 2 mois. La forêt en général, et ce projet-là en particulier se place dans un contexte de l'interaction entre forêt et eau. On a été commandité par le syndicat mixte Lot-Dourdou pour justement effectuer cette étude qui se base sur plusieurs problématiques, à la fois des problématiques de quantité d'eau, de qualité d'eau, mais aussi de biodiversité, tout en prenant en compte la biodiversité sur le terrain.
C'est vous qui êtes venu du coup vers le département de la Lozère pour leur demander s'ils avaient de la place, ou c'est le département de la Lozère qui est venu demander de l'aide auprès des établissements ?
Je crois que ça dépend beaucoup de nos enseignants en fait, qui contactent un petit peu tous les contacts qu'ils ont en tête, et puis en fonction des réponses qu'ils ont, ils aménagent le projet pour que ça réponde au mieux aux objectifs pédagogiques et aussi aux apprentissages qu'on est censé en tirer.
Pendant ces 2 semaines en Lozère, vous avez vu du coup beaucoup de ce qu'on appelle des zones humides. Est-ce que vous saurez les citer ?
Plus spécifiquement, on a travaillé, on a fait des relevés terrain sur la zone humide de Charpal et également la zone humide de la Combe des Morts.
Vous êtes que 3 aujourd'hui, j'ai appris que vous étiez 14 en tout, je crois. Vous êtes divisé du coup en plusieurs groupes pour vous étendre sur le territoire ?
En fait, comme on est 14 à travailler sur un sujet qui est plutôt vaste, on s'est divisé en sous-groupes selon différentes tâches qu'on doit réaliser.
Et du coup, nous, aujourd'hui, on travaille plus spécifiquement sur la zone aux alentours d'Aurillac, mais chaque groupe a des thématiques différentes. Et du coup, le but, c'est de rendre le projet le plus complet possible, et c'est pour ça qu'on se divise en sous-groupes.
Quel est l'objectif au final de l'étude précisément ? Qu'est-ce que vous cherchez tout simplement ?
Du coup, on cherche à répondre à ces différentes problématiques de quantité, qualité d'eau et biodiversité sur l'interaction forêt-eau en analysant spécifiquement des sites. Par exemple, aujourd'hui, le site d'Aurillac, qui est un site où l'interaction avec l'agriculture est très importante et où, par exemple, des plantations ont été faites aussi dans la région. Et on essaye alors de comprendre les conséquences et les interactions entre ces différents modes de gestion et d'utilisation du territoire. C'est ça qu'on essaye en tout cas de mettre en évidence dans le rapport qu'on va du coup présenter au syndicat mixte. Et voilà, c'est surtout essayer de comprendre cette interaction entre ces différentes choses.
Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a un enjeu assez important que le syndicat nous a demandé de relever. C'était de leur proposer déjà des exemples de gestion de certains lieux problématiques. Donc nous, on est censé apporter quelques idées de solutions, mais aussi leur proposer une gestion concertée entre les différents acteurs du territoire. Donc c'est aussi pour ça qu'on a toute une phase de... Nous, on appelle ça de la socio, toute une phase d'entretien en fait avec les acteurs pour pouvoir leur permettre à terme de travailler plus en concertation.
Une étude comme celle-là, c'est pas quelque chose qui aurait besoin d'être fait sur plusieurs années pour avoir des valeurs à comparer?
C'est une étude qui pourrait être menée sur plus de temps, mais néanmoins, on peut avoir des résultats satisfaisants en 2 semaines de terrain grâce aux indicateurs biologiques qu'on relève lors de nos phases de relevé terrain. Et en fait, toutes les perturbations sont enregistrées par la morphologie du cours d'eau, par les plantes bioindicatrices et par différentes choses qu'on relève et qui nous permettent d'avoir une idée de l'histoire du lieu et de pouvoir concentrer à un instant T tout ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Donc ça nous permet quand même de faire une étude complète aujourd'hui là-dessus.
Quel est votre procédé pour faire cette étude? Comment vous allez à un endroit et vous allez du coup, qu'est-ce que vous allez faire?
Alors du coup, le projet se décompose en plusieurs phases. On a d'abord eu une phase de préparation où on a fait beaucoup de photo-interprétation, le coup du numérique, où on essaye d'identifier des zones d'études spécifiques. Ces zones d'études sont ensuite étudiées lors d'une première phase de terrain. On va alors faire des relevés assez généraux et essayer de relever des problématiques spécifiques que l'on prolongera dans une deuxième phase. Des exemples, c'est par exemple ici le cas d'Aurillac, où on a eu une grosse problématique au niveau d'un captage et de drainage de champs, etc. C'était une zone repérée lors de cette phase 1 et que l'on est aujourd'hui en train d'analyser en phase 2, c'est-à-dire essayer de comprendre plus spécifiquement qu'est-ce qui se passe, comment cette interaction justement forêt-eau se déroule et même avec l'agriculture. Et on développe ainsi, lors de cette phase 2, différentes techniques de terrain et de relevés pour être plus spécifique. Par exemple, aujourd'hui, on a fait des relevés dendrométriques dans les différents peuplements afin de pouvoir par la suite plus facilement identifier tout cela, pareil, toujours avec de la cartographie, et pouvoir présenter ça par la suite au syndicat.
Oui, voilà. Donc là, par exemple, sur la zone d'Aurillac, on a des problèmes identifiés pendant la phase 1, comme Elisa l'a dit, de qualité et de quantité d'eau. Et du coup, durant cette phase 2, l'idée, c'est de prendre plusieurs données afin par la suite de donner peut-être des conseils de gestion ou des idées de propositions à mettre en place pour pouvoir résoudre au moins une partie des problèmes rencontrés maintenant.
Vous êtes un peu piégé avec un mot de... Comment ça, vous avez dit à l'instant, les relevés andrométriques. Est-ce que du coup, vu que tu l'as prononcé, tu peux l'expliquer?
Oui, bien sûr. Alors, des relevés dendrométriques, du coup, ça va être des relevés dans le peuplement forestier, où on va étudier les différentes essences forestières qu'on y trouve. Du coup, ici, sur ce site spécifique, on a relevé beaucoup d'épicéas, de sapins et d'hêtres, par exemple. Et ensuite, on effectue du coup des mesures de diamètre moyen, de hauteur dominante. Du coup, on va essayer de chercher l'arbre étant le plus grand et on va mesurer sa hauteur.
C'est
c'est le plus gros diamètre.
Le plus gros diamètre, voilà, l'arbre de plus gros diamètre, on mesure sa hauteur et on le fait, voilà, aussi des calculs de surface terrière, c'est-à-dire la densité du peuplement autour. Et ça va nous permettre ensuite d'effectuer de la cartographie par la suite et des conseils et d'ainsi aboutir à des conseils de gestion par rapport à ce qui nous semble le plus judiciable sur ces peuplements.
Vous parlez de rencontrer des acteurs locaux, des élus, des gens du coin. Vous avez rencontré qui jusqu'à maintenant ?
On a eu une première réunion où on a eu la possibilité de rencontrer différents élus locaux. Maires de communes qui sont sur notre territoire, qui nous ont, eux, spécifié du coup, les problématiques du territoire. On a aussi eu la possibilité de rencontrer du coup, l'ONF, qui s'occupe de la gestion des peuplements forestiers ici, et qui, pareil, nous ont donné des forêts publiques, et qui nous ont donné du coup, des indications sur... des zones peut-être à étudier, etc. Et ce qu'ils attendaient aussi, d'une certaine manière, de notre rapport, afin de pouvoir aussi les aider dans leur gestion. Et ensuite, on continue nos rendez-vous. On a rencontré du coup, le CRPF, qui s'occupe cette fois-ci de la gestion des forêts privées. On rencontre aussi des agriculteurs locaux, qui nous expliquent comment est-ce qu'ils drainent leur champ, comment est-ce qu'ils utilisent justement cette eau plus spécifiquement. Justement, on est en ce moment en train d'être en contact avec la coordination rurale pour aussi apporter plus d'informations sur ce sujet. C'est la même avec la Chambre de l'Agriculture, la Fédération de Pêche et le CEN. Le copage, l'agence de l'eau. Et l'aspect social est très important pour nous de prendre en considération, en tout cas, la plupart des acteurs de ce territoire qui sont, enfin, qui touchent, en tout cas, de près ou de loin à l'eau, et d'essayer, dans notre rapport, d'illustrer toute la coordination et tous ces liens entre ces différents acteurs et l'effet qu'ils peuvent avoir aussi sur cette problématique.
Au final, une fois que vous aurez les résultats de l'étude et que vous allez du coup retransmettre ces résultats, est-ce que vous avez confiance aux gens d'ici pour vous écouter ? Pour vous écouter, pour vous entendre et peut-être agir derrière ?
Je ne suis pas sûre qu'on puisse parler de confiance parce que nous, on va leur transmettre notre rapport. Ensuite, c'est aussi une question de moyens humains, techniques, financiers. Donc, c'est pas un problème de confiance. Bien sûr qu'on a confiance, mais après, est-ce que ce sera réalisable ? C'est autre chose. On va essayer d'être exhaustif dans nos propositions pour prendre en compte justement un maximum de choses réalisables. Après, nous, on ne sera pas là pour vérifier. Et par ailleurs, on sait que notre commanditaire, donc le syndicat mixte du Lot d'Ourdou, est en attente d'information et utilisera forcément à bon escient cette information.
Là, vous n'avez pas encore du coup les résultats de votre étude, mais par simple constat visuel ou pas en étant sur le terrain, est-ce que vous avez déjà des choses à dire ?
Alors, effectivement, on fera un travail de traitement de données par la suite qui nous permettra de donner un résultat plus réfléchi et plus exact. Mais pour le moment, sur le terrain, on observe plusieurs types de perturbations au niveau des cours d'eau. Et c'est vrai qu'en parlant avec les habitants du coin et avec les informations qu'on a, on sait que les problèmes de quantité d'eau et de qualité vont pas en s'améliorant et s'intensifient. Et on sait que les perturbations qu'on observe maintenant, donc tout ce qui est lié par exemple à l'agriculture, au pâturage, c'est des perturbations qui peuvent être d'autant plus graves que le problème de quantité d'eau va plutôt aller en s'intensifiant. Et du coup, c'est surtout par rapport à ces aspects-là qu'on préconisera certainement des choses. Et ensuite... tout l'aspect peuplement aussi qui est à prendre en considération sur une échelle plus large et qu'on fera plutôt après en travail bibliographique et en traitement de données. Donc il y a plusieurs types de zones sur lesquelles on a travaillé et également les zones de franchissement, des liens entre la piste forestière par exemple et des cours d'eau. Et là on rencontre plutôt des problèmes d'ensablement des cours d'eau, donc c'est des aspects aussi sur lesquels on se penche. On observe également la non-gestion des peuplements forestiers qui peut entraîner des perturbations au niveau du cours d'eau. Et donc, c'est des aspects sur lesquels on travaille aussi actuellement et qu'on relève sur le terrain.
Et quelles sont les conséquences de ces perturbations au niveau des cours d'eau quand il n'y a pas de gestion
pas de gestion forestière,
Ouais, sur les ruisseaux.
Alors la non-gestion forestière, ça peut en suivre plusieurs problématiques sur les cours d'eau. On parle par exemple d'embâcle, quand on va avoir du gros bois mort au milieu des cours d'eau qui peut réduire le ruissellement. On peut avoir aussi le manque de gestion forestière qui peut influencer aussi la ripisylve qui du coup est toute la flore et qui se trouve sur le bord du cours d'eau. Et cette flore permet de tenir la berge. Et toute influence là-dessus peut avoir des conséquences sur l'ensablement, l'incision du cours d'eau, de l'érosion. Et ça, du coup, ça a un impact sur à la fois la quantité d'eau, mais aussi sa qualité par la suite.
Aujourd'hui, on subit un réchauffement climatique sur toute la planète. Est-ce que votre étude sur un territoire aussi petit que la Lozère prend en compte ce changement climatique ?
Du coup, oui, notre étude prend en compte le réchauffement climatique. Par plusieurs aspects. Déjà, on va essayer, nous, de voir un petit peu l'influence des peuplements forestiers sur la consommation en eau, parce que, donc, avec des quantités d'eau qui sont tous les ans un peu moindres en Lozère, c'est plutôt un travail de bibliographie, mais on va essayer de voir si la forêt peut participer à une surconsommation en eau. Après, il y a aussi, plutôt par rapport aux essences forestières, on essaye de préconiser une gestion qui prend en compte l'évolution des climats, que les nouvelles essences soient adaptées. Donc dans le cadre de tous les entretiens qu'on a pu avoir autour avec les différents acteurs, on a souvent entendu la question de l'enrésinement. Les résineux, notamment les épicéas, sont connus pour consommer beaucoup d'eau. Et donc nous, on va mener un travail de bibliographie pour essayer de voir si c'est effectivement le cas, parce qu'on a observé que sur de nombreux bassins versants, il y avait beaucoup, beaucoup de résineux. Et si c'est effectivement le cas, essayer de proposer à des conseillers de gestion sylvicole qui permettent de pallier un peu à ces problèmes.
C'est-à-dire, du coup, la solution, ce serait de raser ces résineux pour remettre autre chose à la place ?
Voilà, c'est ça.
Non, mais une gestion c'est...
Donc non, pas de coupe rase, parce que la coupe rase peut entraîner des problèmes autres sur le territoire et voilà, d'autres problèmes liés à la coupe rase, et plutôt adopter une sylviculture moins traumatisante pour la forêt. Et par exemple, plutôt des éclaircies et une ouverture du peuplement afin d'avoir un apport supplémentaire de lumière au sol et de permettre à d'autres essences, donc à d'autres espèces d'arbres de se développer et d'avoir différentes strates, donc la strate arbustive et arborescente, par exemple, toujours dans le but d'éviter des glissements de terrain ou des problèmes qui peuvent être engendrés par la coupe rase et qu'on cherche à éviter et qu'on évitera. Et je voulais dire un autre truc que j'ai oublié. On ne préconise pas la coupe rase parce qu'en fait la coupe rase empêche... la forêt d'origine ici en Lozère a été plantée pour justement répondre aux problématiques de glissement de terrain. Et donc le fait de planter cette forêt permettait de répondre à ces problématiques-là. Et maintenant la forêt elle est soumise à d'autres enjeux et elle a de nouveaux services écosystémiques qu'elle doit rendre. Dont tous les problèmes sur lesquels on travaille en lien avec la qualité et la quantité d'eau. Et donc maintenant, en plus du maintien des sols. Donc maintenant, en plus du service de maintien des sols qu'elle doit toujours effectuer, il y a également toutes les problématiques liées à la qualité et à la quantité de l'eau. Et donc pour cela, en lien avec ce projet, on se tournera plus vers une sylviculture permettant d'ouvrir les peuplements avec la réalisation d'éclaircies qui permettra un apport de lumière supplémentaire au sol et donc la création d'une strate arbustive et arborée. Et on pensait aussi à diversifier les peuplements. Là, il y a de nombreux versants sur lesquels on a principalement du résineux. Et donc, comme on l'a dit précédemment, le résineux est peut-être une essence qui pompe plus d'eau que des feuillus. Ça, c'est un travail qu'on fera après en bibliographie. Mais du coup, avec cette vision-là aussi, peut-être préconiser des éclaircies dans des peuplements de résineux, dans le but d'apporter également des peuplements de feuillus et d'avoir des peuplements mélangés feuillus-résineux.
On a parlé du réchauffement climatique, mais on n'a pas parlé des feux de forêt qui sont quelque chose de récurrent en Lozère, surtout l'été. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, pris en compte ces feux de forêt, quelque chose à dire à ce propos?
Alors, on travaille sur un bassin versant spécifique, qui est du coup en amont du Lot. Et sur ce bassin versant, en tout cas, quand on a étudié justement un peu le territoire pour spécifier nos zones d'études, on n'a pas remarqué en tout cas de feux, enfin de peuplements qui ont été en tout cas incendiés lors des événements de l'été. Du coup, c'est pas une problématique qui rentre en enjeu principal, en tout cas dans notre projet pour l'instant. Parce que c'est pas sur les cas on s'est focalisé. Après, c'est toujours une grande problématique en Lozère et c'est toujours important dans un contexte de changement climatique de le prendre en compte. Du coup, je pense que ce sera aussi un enjeu qui sera pris en compte dans notre rapport final.
Donc, concernant la problématique des incendies, même si on ne le prend pas en compte de manière directe dans nos protocoles et nos relevés, on le prend en compte indirectement parce que en répondant à la problématique de la quantité d'eau, si on arrive à créer une sylviculture qui rend les peuplements moins vulnérables et moins stressés au cours de l'année, ça les rendra donc moins vulnérables aux incendies par la suite.
Ok, oui. Donc moi, ce que je pourrais, pour compléter, hein, donc je suis l'enseignant, un des enseignants qui suit les étudiants. Notre travail aussi va consister de façon plus globale à chercher à mettre en place des forêts plus résilientes au changement climatique. Et dans ce contexte-là, on se rend compte qu'il faut que la réflexion sur la DFCI soit réfléchie avec justement le fonctionnement des cours d'eau, des zones humides et tout ça, quoi. Tout ça doit être bien géré tout ensemble pour qu'on ait un milieu le plus résilient possible dans un contexte de changement climatique. Si on a une forêt plus résiliente, eh ben, on sera moins sensible aux incendies, moins sensible... on aura moins de problèmes de quantité d'eau, moins de problèmes de qualité d'eau. Donc moi, de cette étude-là, on va pouvoir retirer quelques éléments et qui devront être pris entre guillemets en compte par tous les acteurs, que ce soit les acteurs de l'eau, les acteurs de la forêt, pour qu'il y ait une espèce de synergie pour construire un milieu plus résilient, tant sur l'eau, tant sur la biodiversité, tant sur les incendies, tant sur la production forestière.
On en a très peu parlé, mais est-ce que votre étude se penche à minima sur le vivant des rivières et des forêts ?
La biodiversité est un des points sur lesquels on travaille dans notre étude et qu'on prend en compte lorsqu'on fait des relevés terrain. Par exemple, on fait attention à la continuité écologique des cours d'eau et on regarde également la faune et la flore qui entourent chaque cours d'eau pour pouvoir faire une étude complète également à ce niveau-là.
Aujourd'hui, de quoi aurait besoin le territoire pour que tout aille mieux ?
Là, c'est très large. C'est très large, mais l'une des finalités de notre projet, c'est justement cette concertation entre les acteurs qu'on évoquait précédemment. Et donc, on s'aperçoit que pour atteindre cette résilience de la forêt ou des cours d'eau, il n'y a pas de décision unilatérale qui doit être prise. Ça doit toujours être de manière concertée. Et on espère qu'on parviendra à travers ce projet à mettre en relation de manière un peu plus aboutie les différents acteurs du territoire.
Et du coup, par-delà de ça, est-ce que vous aviez quelque chose à exprimer ?
Je pense que c'est important aussi de cadrer ce projet en disant que c'est bien un projet pédagogique. Enfin, on est seulement en deuxième année d'études d'ingénieur. C'est un de nos premiers projets vraiment spécifiques où on fait face à un commanditaire qui a des attentes spécifiques, mais parfois aussi... qui cherchent seulement à avoir des informations, et du coup c'est à nous vraiment d'aller chercher quelles informations est-ce qu'il faut lui restituer, de quelle manière. Et voilà, c'est très formateur parce qu'on est vraiment sur le terrain, on est certes encadré par nos encadrants, mais qui nous laissent énormément de liberté aussi sur justement nos zones d'études à étudier, la manière dont on les étudie et la manière du coup dont le rapport sera restitué à la fin au commanditaire, même si on reste du coup toujours encadré grâce à nos professeurs qui nous guident d'une certaine manière lors de tout ce projet. Et c'est vraiment pour nous extrêmement important de faire ces projets-là qui sont très concrets et qui sont vraiment comme des stages d'une certaine manière pour nous, puisqu'on applique réellement des connaissances théoriques qu'on accumule au cours de nos études Et c'est ça aussi qui fait, par la suite, en sortant de ces écoles, la force, d'une certaine manière, des ingénieurs.
Oh, la pub.
Merci, Philippe. Merci, Philippe.
Mais malgré que vous rabaissez un peu en disant que vous n'êtes qu'en deuxième année, c'est un projet quand même, à mes yeux, qui est colossal et qui a un intérêt très très fort, surtout actuellement et dans la politique actuelle des choses.
En tant qu'enseignant, notre premier objectif, c'est de construire un projet très pédagogique, mais confronter les étudiants à la réalité du terrain. C'est-à-dire d'avoir des vrais commanditaires, d'avoir des vrais acteurs du territoire, d'avoir des agriculteurs qui ont leurs atouts, leurs faiblesses, enfin, qui ont leurs envies, qui ont leurs besoins. Et donc de mettre vraiment les étudiants face à la réalité du terrain. Et donc de sortir, entre guillemets, d'une théorie où on se dit qu'on pourrait faire ça ou faire ça. Et donc de trouver des compromis acceptables entre tous les acteurs, entre tous les besoins du territoire, pour arriver justement à atteindre ce milieu plus résilient. Et donc c'est une espèce de challenge qu'on lance aux étudiants en disant voilà, c'est à vous de gérer l'étude, de savoir comment vous allez la gérer, et c'est à eux, entre guillemets, de trouver les solutions. Nous, enseignants, on est juste là pour essayer de les aiguiller de temps en temps, mais le travail, c'est surtout aux étudiants de le mener, c'est à eux de réfléchir, c'est à eux de faire le travail. Et donc l'idée, c'est vraiment de les mettre dans les situations professionnelles et donc d'avoir une première expérience professionnelle assez, assez intéressante, à mon point de vue, parce que c'est des questions qui sont très importantes et très difficiles à amener jusqu'au bout, puisque même un bureau d'études, on ne fait que des petits morceaux, et donc on est sur un sujet quand même particulièrement important. Quoi.
Pas de pédagogie, c'est de rien faire.
De se dédouaner.
On laisse
projet.
Beaucoup les étudiants.
C'est bien dit après.
C'est important aussi pour se prendre plus au sérieux et ne pas avoir du coup l'image du prof sur notre travail.
Oui, c'est sûr. C'est très formateur.
Quand votre étude sera terminée, où est-ce qu'on peut avoir... Est-ce que tout le monde peut connaître les résultats? Est-ce que si on veut être tenu au courant, c'est possible?
Alors, il faut d'abord rappeler que du coup, ce rapport appartient d'abord aux commanditaires, du coup au syndicat mixte Lot d'Ordoue. Et du coup, c'est lors de la restitution de ce rapport, c'est la propriété du syndicat. Mais comme cette étude est aussi subventionnée par l'agence de l'eau, elle sera sûrement rendue publique par la suite, une fois qu'elle sera sûrement étudiée et prise en compte. Il faut aussi noter qu'on fait une restitution le 17 mai, que cette restitution se fait devant plusieurs acteurs qui sont invités, et qu'elle sera du coup enregistrée et sûrement aussi diffusée par la suite. Et cette fois-ci, tout le monde pourra aussi avoir accès à ces informations grâce à cette retransmission.
Je vais du coup vous remercier énormément déjà pour cette interview, mais surtout pour le travail que vous faites et que vous avez fait. Et j'espère peut-être un jour que vous reviendrez en Lozère voir les changements, si ça a eu un impact, votre travail.
C'est un travail qui nous passionne beaucoup et on est très heureux de pouvoir travailler là-dessus. Et on vous remercie aussi pour l'entretien et l'interview qu'on vient de donner. Et on espère vraiment que ce qu'on pourra amener comme solution parlera aux différents acteurs du territoire et que ça pourra enclencher un certain processus à ce niveau-là.
Oui, merci en tout cas beaucoup de prendre intérêt pour notre projet. Comme l'a dit Elda, on est vraiment passionnés par nos études et c'est ça aussi qui fait notre force et qui rend le travail d'autant plus sympathique aussi, de plus des paysages de Lozère.
Bah, les remerciements ont déjà été faits, donc c'est vrai, moi j'ai rien à ajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, donc merci d'avoir organisé cette interview. Et du coup on tenait aussi à remercier tous les acteurs qu'on a pu rencontrer au cours de ces deux semaines de terrain.
Et ben merci beaucoup, que de bonne humeur, et ce sujet passionnant. Merci à toi, Léo. Merci à toutes et tous de nous suivre. C'est la fin de cette matinale. Sachez que vendredi, à partir de 18h, nous serons en direct du château de Florac pour la fête de la forêt qui s'ouvre donc vendredi, avec une conférence et une table ronde qui risque fortement d'être passionnante aussi. Pour la matinale, on se retrouve lundi et on parlera du festival des terres, si on a réglé ce problème de téléphone, évidemment. Ce festival des terres qui aura lieu à la fin du mois à la Grand Combe. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Profitez-en bien. On se quitte avec Trust, Antisocial. Portez-vous bien. Restez bien sur Bartas. On n'y est pas trop mal. À très vite. Ciao.
Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme. samedi 6 mai à 17h dans la salle gynéco de Saint-Martin.
Non, Cinéco.
Cinéco.
Ouais, t'as dit gynéco. Donc là, je me permets de te reprendre.
J'ai dit gynéco.
T'as dit gynéco, ouais. Ça, je te jure. Ça, tu peux le garder, ça. J'ai dit gynéco, donc. Radio Barthes.
Samedi 6 mai à 17h dans la salle Cinéco de...
C'est 16h.
Non, c'est 17h.
Ah non, c'est 17h. Ah, putain, j'étais sur la chaîne. Pardon. Alors, ouais, voilà. Là, alors, on va faire un peu de jingle. Ah,
voilà. Et on va y arriver.
Mais quand ça veut pas, ça veut pas. Sur Radio Barthes, 107 FM, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas. Ça sent la loupe.